France Culture.
Là, nous en sommes au moment inaugural de notre histoire, à celui de la Fondation. Et comme nous n'avons pas l'intention d'écrire un roman historique, mais simplement de faire une forme, et ça, ne vous inquiétez pas, on vous le répétera suffisamment par la suite, nous sommes donc inévitablement contraints d'instituer les règles de cette forme. Et ça, nous ne pouvons le faire que in corpore vili, c'est-à-dire dans la forme même, dans ce récit. Et là-dessus, nous devons être brutalement explicites. La psychologie est remplacée massivement par l'idéologie. Vous, par conséquent, spectateur, ne devez pas vous faire d'illusions. Vous ne tomberez jamais sur un de ces personnages qui, mystérieusement, se développent et évoluent à mesure que les événements dont ils sont la cause ou par lesquels ils sont mis en cause les contraignent à une cohérence dramatique. Pas de ça ici. Là, en enfilant ses lunettes noires, c'est l'auteur Pasolini qui s'adresse à vous, spectateur. C'est un signe. Ainsi, lorsque l'un ou l'une d'entre nous portera des lunettes noires, vous saurez à quoi vous en tenir. Et, au cas où vous en douteriez, cher spectateur, nous sommes bien en théâtre, en chair et en os. Coucou les gars.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Comment le plateau de théâtre peut devenir un outil de lecture ? Plus généreusement encore, comment le travail avec les actrices, les acteurs, l'espace, la lumière, le son peut vous frayer un chemin dans des textes touffus, ambitieux, complexes, sans jouer trop fort la carte de la pédagogie, mais en avançant dans la matière, proposant une expérience physique et visuelle. Je parle ici de textes pas prévus pour la scène, comme plusieurs romans de Dostoïevski, Le Capital de Marx, L'esthétique de la résistance de Peter Weiss, autant de textes que Sylvain Creusevaux a mis en scène ces dernières années. Et tout dernièrement, Pétrole, le roman posthume de Pier Paolo Pasolini. À chaque fois, le sentiment, en tant que spectatrice, d'une offre radicale et précieuse, celle de la traversée du texte et de la pensée, celle de la possibilité d'un rapport avec. Le metteur en scène est l'invité de votre book club ensuite, et comme chaque semaine, on parlera littérature jeunesse avec Mathilde Wagman. Aujourd'hui, on parle jeu. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le book club. Et bonjour Sylvain Creusevaux.
Bonjour Marie Richeux.
Votre mise en scène de Pétrole se jouait à l'automne au Théâtre de l'Odéon à Paris. C'est en tournée à Saint-Étienne, Reims, Lausanne. On mettra les dates sur le site du Book Club. Et puis vous entamez ces jours-ci un pavillon auteur Pasolini au Théâtre de la Commune à Aubervilliers en proposant entre autres une mise en scène de Pilade. Cette fois c'est du théâtre avec des étudiantes et étudiants du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Ça se joue du 22 au 31 janvier, mais aussi des projections de films de Pier Paolo Pasolini ou encore La Fabrique Pasolini. C'est une continuation du travail entamé autour du livre Pétrole dont on va parler aujourd'hui spécifiquement. Ça a lieu du 28 au 31 janvier 2026, le tout 50 ans après l'assassinat de Pier Paolo Pasolini. Bienvenue dans le Book Club. Merci beaucoup d'être
Merci
là.
Beaucoup.
Je conseille à nos auditeurs et auditrices de réécouter votre portrait de bibliothèque sur France Culture. On l'avait fait ici, je crois, dans ce studio. On y dépliait à force d'extraits de textes votre rapport à la lecture, fait d'amitié de jeunesse, de découvertes puissantes de la poésie, mais aussi de rapport aux grandes œuvres du XXe siècle. Vous choisissiez par exemple d'évoquer Marguerite Duras ou encore Baudelaire ou encore François Villon ou encore Bertolt Brecht ou encore Peter Weiss. C'est dire. Donc la bibliothèque de Sylvain Creusevaux se réécoute. Je donne plein d'infos au début. J'espère que tout le monde écoute. Sur franceculture.fr. Et je me permets de glisser aussi un mot en mémoire de Valère Novarina, metteur en scène, poète, peintre, dramaturge, qui avait aussi déballé sa bibliothèque pour le Book Club. Je crois que c'était l'été dernier. Il est mort le 16 janvier dernier. On peut réécouter cette toute récente archive sur notre site franceculture.fr. Alors avant de parler de Pier Paolo Pasolini et précisément de son texte Pétrole, je voulais qu'on s'attaque à cette invitation question qu'on vous a formulée après avoir vu Pétrole au Théâtre de l'Odéon et avoir fait encore une fois cette expérience avec vos mises en scène, Sylvain Creusevaux, d'avoir, comme je le disais en introduction, la chance de se voir frayer un chemin. Pas expliquer, mais frayer un chemin dans un texte, qu'en l'occurrence, moi, je ne connaissais pas. Et de ressortir du théâtre, voilà, en me disant, tiens, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai lu. Donc je me suis dit, le théâtre, là, le plateau, le travail des corps, du son, de la voix, m'apparaît comme une possibilité de lecture. Voyons voir ce qu'en pense Sylvain Creusevaux.
Oui, enfin, ou plutôt que... Enfin, moi, on propose une... Enfin, on dit souvent adaptation, mais bon, c'est vraiment très... prétentieux, parce qu'on fait une lecture, une proposition. Moi, j'aime bien l'idée que les spectateurs ou les spectatrices qui n'ont pas lu, par exemple, La Pétrole, ça leur donne envie de lire. Parce qu'en fait, c'est quand même irremplaçable, la lecture. Mm-hmm. Donc, quand moi, c'est vrai que j'aime bien prendre des romans, enfin en tout cas des choses qui ne sont pas des pièces de théâtre au départ du travail, pour en donner une proposition scénique, le faire jouer, voir qu'est-ce que ça fait quand on le met dans des corps, ce qu'on gagne, ce qu'on perd. Mais c'est jamais dans l'idée de dire, voilà, ça c'est fait, les gens qui le voient, ils n'ont pas à le lire. C'est toujours une invitation, en tout cas implicite, quoi, qu'en sortant du théâtre, on est affamé de lecture, en fait, et non pas rassasié de lecture. Donc, surtout Pétrole, qui est inachevé, enfin, qui est, dont l'arpentage, enfin, tu peux l'arpenter pendant des heures, des jours, des années, des mois. Tu peux rentrer par le début, par la fin, par le milieu. Donc, en tout cas, c'est pas une idée que je me dis. Et même, j'adore ça, parce que comme... Bon, alors, Pétrole, c'est pas tout à fait le cas, parce que c'est moins connu. Mais par exemple, vous voyez, vous parliez des mises en scène, enfin, des spectacles qu'on a fait à partir des romans de Dostoïevski. Mmh. Comme les romans de Dostoïevski, il y a quand même un certain...
Souvent,
qui les ont lus, souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, et qui en ont souvent un souvenir très ému, frappant. Les gens qui te disent « L'idiot, c'est mon roman préféré », d'autres qui disent « Les démons » ou « Les frères Karamazov ». Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que quand ils viennent au théâtre, ils y viennent avec le secret espoir de ressentir ou de ressaisir ce que leur souvenir comment imprimé ou cette petite marque de feu que ça a laissé sur leur peau de lecteur. Et souvent ça...
Ils ne le retrouvent pas.
Ils ne le retrouvent pas, ils sont très en colère parce qu'il y a toujours le secret espoir qu'une adaptation théâtrale réalise absolument la question littéraire sur le plateau théâtre, et c'est pas possible.
Et alors, qu'est-ce qui se remplace pas? Qu'est-ce qui se remplace pas dans la lecture? Qu'est-ce qui achoppe nécessairement quand...
Je pense le trafic personnel de chaque lecteur, de chaque lectrice, avec son histoire, d'où il vient, ce qu'il traverse, enfin son humanité, son âme, sa manière de son rapport au monde. Et donc c'est tellement personnel, la lecture, que enfin en tout cas sur ces grandes œuvres, que ça peut créer soit des personnes qui en ressortent en disant c'est trop intéressant, c'est vraiment pas la lecture que j'en ai eue, et même je n'aurais jamais fait ça comme ça, etc. Donc ça crée une dispute, comme on dirait, ou soit des personnes qui sont, où en fait c'est trop beau, quoi. C'est-à-dire que tu vois des gens en colère ou en tout cas chafouin, déçus, et en fait quand ils se mettent à parler, se réouvre
le souvenir,
la mémoire affective, oui, voilà, l'empreinte que ça a laissée. Et donc, bon, c'est toujours très vivant, quoi. Mais il y a aussi les turiféraires, les exégètes, les spécialistes qui ont un regard plus objectif et qui... Moi, je préfère le rapport sensible, quoi.
Mais je crois que le sens de ma question, c'était pas tellement l'outil de lecture que ce serait pour nous, spectateurs ou spectatrices, mais plutôt l'idée que vos outils à vous, que sont les corps des comédiennes, des comédiens, leur voix, l'espace, la structuration de cet espace, la lumière, vous permet de lire. Est-ce que ça, c'est intéressant ou pas comme idée?
Moi,
que ça vous permet de traverser un texte.
Oui, ça l'est pour moi, c'est-à-dire... Mais ça l'est dans sa dégradation aussi. Mmh. C'est-à-dire, j'imagine parfois les lecteurs et les lectrices de littérature le sont et l'aiment et aiment l'être aussi parce que, en quelque sorte... l'organicité, le corps est absent, c'est plutôt le corps de la littérature, tu es avec le corps de la littérature. Quand tu commences à te poser la question de comment faire théâtre d'une œuvre littéraire, tu poses la question du corps de l'acteur et de l'actrice. Et donc, de ce que le corps empêche.
Ou peut.
Ou transforme, ou justement accélère, ralentit. C'est la transformation, c'est le passage qui, moi, me séduit, enfin, qui, moi, me rend, enfin, joyeux, quoi. Même dans la perte, même dans ce qu'on n'arrive pas à atteindre. Mais il y a plein
mais
de...
Mais cette métamorphose, on peut dire que c'est une lecture. Et après, j'arrête d'insister, mais vous voyez ce que je veux dire?
C'est sûr.
Transformation de la matière texte sur le plateau, par ce que peut le corps, par ce que perd le corps, par ce que peut l'espace, parce que perd l'espace, etc., etc., à décliner à l'infini. Est-ce que c'est pas un mode de lecture? C'était celle intuition avec laquelle je suis sortie, moi, de Pétrole, qui rejouait les intuitions d'autres spectacles que j'ai vus de vous.
Bah, en tout cas, oui, ça fait lecture pour moi. Ça fait ligature. Ça fait peau. Donc ça fait tissu, ça fait lien, en fait. Mais il peut être écorché, le fil peut être à rebrousse-poil, il peut être... Et donc, qu'est-ce qui... Oui, ça fait lecture. Mais ça fait lecture, c'est pas suffisant, il faut le qualifier. Ça fait lecture diminuée, ça fait lecture augmentée, ça fait grattoir, ça fait...
Et donc, par conséquent, pour nous aussi, au bout de la chaîne.
Je trouve, Enfin, pour autant qu'on est intéressé par cette chose-là. Mais ça serait beau, non, que, enfin, ça serait beau et terrible, mais qu'un spectateur ou une spectatrice puisse dire « Oh ben, j'ai vu votre proposition, j'ai vu la pièce et j'ai pas du tout envie de lire le livre. » Nous, on le fait dans l'autre sens.
Mais vous ne faites pas que pour ça. Vous n'êtes pas là que pour se dire « Sylvain Creusevaux, on va faire une pièce pour vous donner envie de lire Pétrole. »
Non, 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 non. C'est vrai. Mais ça peut être une conjugaison. Par exemple, pour Pétrole, c'est peut-être d'ailleurs plus vrai pour Pétrole de mon côté que pour Dostoïevski. Mais pour Peter Weiss, pour L'esthétique de la résistance, qui est un roman gigantesque et sublime et que peu de gens connaissent ou ont traversé, ou Pétrole, où c'est un peu la même chose, de manière tout à fait différente dans la forme et dans le contenu, mais les deux derniers, ces deux travaux-là, qu'on a présentés à l'Odéon cette année, il y a quand même, chez moi, le petit désir que ça puisse...
Passer comme ça.
Que ça puisse aussi donner envie aux gens d'aller le lire.
Et alors, on va voir peut-être avec quels outils du théâtre vous le faites, mais avant de parler de ça, concrètement, la lecture dans ce travail théâtral avec vos compagnons de travail, ça prend quoi comme place? Vous, vous lisez tout seul? Est-ce que vous lisez à plusieurs? Est-ce que vous parlez de ce que vous lisez?
Sur Pétrole, c'est un peu particulier ce qui se passe, parce que quand je commence à dire mon désir de le mettre au centre de la table de travail et du plateau... personne ne connaît le roman. C'est il y a longtemps. Je demande aux personnes avec qui je veux faire la pièce de le lire. Et certains me disent un peu de temps après, j'y arrive pas trop, c'est difficile. Ça a été un des romans. Enfin, ça a été un des objets, on pourrait d'ailleurs se poser la question de savoir si c'est un roman, les plus difficiles pour l'équipe de création. Que ce soit les acteurs et les actrices ou que ce soit tous les métiers. Les personnes, j'ai senti, quand on s'est retrouvés au printemps dernier pour commencer le travail au plateau, enfin en répétition, j'ai senti que les temps qui avaient précédé individuel chez chaque personne avaient été difficiles. Au point que je n'ai pas osé demander explicitement qui avait tout lu et comment. Et on n'a pas eu le temps pendant les répétitions, il nous faudrait 3 semaines à peu près, je pense, de se mettre tous ensemble autour de la table pour le lire à haute voix ensemble, ce qu'on fait habituellement sur les autres projets. Et ce projet étant...
Pourquoi faire, vous faites ça sur les autres projets, de lire?
Eh bien, parce que je parlais tout à l'heure du secret... plaisir, enfin, ou de l'exercice solitaire de la lecture, mais j'adore la lecture collective, moi. Et ça date d'il y a des années, parce que quand on a travaillé sur Le Capital de Marx, on l'a traversé à haute voix.
D'ailleurs, il reste trace un peu dans le souvenir que j'ai de cette mise en scène d'une table, quand même, aussi,
oui,
avec des gens qui discutent.
Oui, absolument, parce que, en fait, mais moi, ça me fait penser, vous savez, aux grands travaux. Monter un mur en pierre sèche. C'est-à-dire quand des êtres humains s'organisent en coopération parce que la tâche à accomplir est trop difficile. Et donc, il faut unifier les forces et les savoirs.
Bah, c'est exactement ça que j'ai eu comme sensation. Alors, du coup, ça me permet de le préciser. C'est exactement ça. C'est face à la tâche difficile que serait la lecture de Pétrole de Pier Paolo Pasolini, on était tous ensemble dans un théâtre. On pourrait discuter à l'infini de quelle était cette assemblée d'individus, mais bon, voilà. On était en tout cas une assemblée d'individus se remontant les manches,
oui,
avec des gens qui s'étaient remontés les manches avant nous,
oui, oui,
pour faire le travail de lire.
Ça, c'est très bien.
Ça, c'est mieux formulé.
Oui, ça, c'est très bien.
Très bien. On va se demander ce que c'est que cet objet, grâce à Pier Paolo Pasolini, qui nous parle de Pétrole. Je pense que cet archive donc date de entre 72 et 75, évidemment, puisque 75, c'est la mort de Pasolini. Le film qui sort, et dont est tiré l'extrait, sort en 76, après sa mort.
Quand je suis dans un endroit, je suis là. Mais maintenant, dans cette occasion, j'ai mon roman qui m'attend dans la table. Sur la table.
Votre dernier roman, là.
Oui.
Quelle est l'histoire de ce dernier roman?
C'est impossible de le raconter en italien. C'est plus difficile encore en français. Il ne s'agit pas d'un roman. Il s'agit de tout ce que je sais. C'est une somme.
Ça m'inquiète un peu que vous disiez ça, parce que un jour j'ai interviewé Mishima, précisément, le jour même où nous parlions de vous, et Mishima me dit « j'écris une somme en 4 volumes, et quand je l'aurai fini, eh bien ce sera l'œuvre de ma vie ». Mais quand il a fini, il a effectivement fini, mais il s'est suicidé ensuite.
Je n'ai pas la tentation de me suicider. Je suis très loin de cette idée. Mais aussi, je pourrais dire la même chose que Mishima. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de ma vie que je suis en train d'écrire maintenant.
La voix de Pierre Paolo Pasolini dans un film qui s'appelle « Vivre et encore plus » de Michel Random. Pasolini, je vous le rappelle, qui meurt en 75 alors qu'il n'a pas terminé la rédaction de Pétrole, dont il dit « ça n'est pas un roman ». La manière dont il le qualifie, c'est avec le mot « somme » et « œuvre d'une vie », c'est ça ?
Tout ce que je sais.
Tout ce que je sais. C'est le moment de dire qu'est-ce que c'est,
oui,
que Pétrole.
Pas un roman déjà. Alors... Dans les feuillets les premiers feuillets du tapuscrit, enfin de la machine à écrire, il y a une feuille où il y a marqué roman, il y a une feuille où il y a marqué vas, V-A-S,
comme qu'est-ce que c'est,
comme un transvasement.
Et on va. Je croyais que c'était vase au sens allemand de qu'est-ce que c'est.
Plutôt vase, plutôt un transvasement ou un contenant, une forme concave, quoi. Très antique d'ailleurs comme terme. Poème aussi, parce que j'ai toujours considéré moi Pasolini. Enfin, moi, je le qualifie... Enfin, pour moi, c'est un poète. Et même s'il a écrit des romans au début, dans les années 50, après, il a suspendu la forme roman, les films, la poésie, les interventions, les écritures dans les journaux. Mais pour moi, fondamentalement, il se place face à l'existence en poète, face à la société en poète, et il écrit Pétrole, pour moi, comme un poète. Et je dirais de Pétrole qu'il est plus, finalement, une grimace de roman, une parodie de roman, un anti-roman, si vous voulez, où il s'interroge sur quelle peut être encore la forme romanesque dans les années 70, à un moment donné où pour lui, la marchandise est en train de tout recouvrir. Et donc, ça peut plus être un roman écrit comme un peu un roman linéaire et classique à la Moravia, comme son ami. Et donc, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que serait devenu Pétrole dans sa forme finale s'il l'avait... Et même, l'aurait-il jamais repris, achevé, j'en sais rien. Mais la forme fragmentaire, la forme de notes, la forme de palimpseste, de composition... est formellement une interrogation sur ce que peut être la littérature ou l'art littéraire.
Ce qu'on entendait dans la voix d'une des comédiennes interprètes de Pétrole qui entreprenait de nous dire, voilà, c'est la forme qui va se discuter à l'intérieur de la forme et on va être là pour vous le répéter, on ne veut pas faire un roman, on veut faire une forme.
Il dit ça tout le temps il dit ça dans le roman.
Mais justement, est-ce que ça fait partie des choses qui vous a attiré, Sylvain Creusot?
C'est sûr que j'ai une grande attirance pour les objets littéraires qui sont pas dans une forme linéaire ou vous voulez ou classique du roman bourgeois du 19e français ou je sais pas. Et où le héros ne se développe pas psychologiquement ou ne se développe pas à l'intérieur même de la forme, mais où il est fragmenté, fragmentaire. Là en plus il est inachevé et contient plusieurs formes d'écriture différentes stylistiquement et ça me fait penser finalement à... Et c'est pour ça que je suis très sensible quand il dit « tout ce que je sais », ça ne prend pas la forme d'une linéarité, le savoir. Ça se coince dans une impasse existentielle à un moment donné de ton parcours, ça fait demi-tour, ça change d'idée, ça se révulse, ça se retourne. Et j'ai la sensation que il essaye d'être au plus près...
De la forme du savoir, presque.
Ouais, c'est ça. C'est cabossé, en fait. Et donc, une sorte de... déformation, parfois ça me faisait penser, j'osais jamais le dire, mais ça me faisait penser à des traits à la Bacon. Donc on a une espèce de roman plein d'humour en même temps et plein d'ironie et du grand douceur. Mais certainement pas, oui, c'est ça, troué, quoi. Enfin,
vous utilisez beaucoup de mots très plastiques et formels pour parler de ce texte-là, ça veut dire que la lecture... En tant qu'elle est tendue vers le théâtre, quand même, immédiatement ou pas? Pour ce qui est de votre lecture de Pétrole de Pasolini?
C'est-à-dire que c'est vrai que quand je lis un roman, je me le dis consciemment, je me dis...
Sylvain ne fait pas de théâtre.
Oui, c'est ça. Enfin, ne projette pas de trucs théâtraux. Et bon, ça vient quand même, quoi.
Et là, donc, par exemple. Quelque chose de la forme de Pétrole va vers le théâtre tout de suite pour vous, quoi.
Bon, il utilise aussi beaucoup de notes dans son talent de. Enfin, comment dire, son expérience du cinéma. Et donc, c'est très visuel, sa manière. Il crée des mouvements de caméra, ou en tout cas des mouvements, des points de vue qui bougent et donc, qui ressemblent vraiment à des travelling de cinéma dans le texte lui-même. Et moins d'ailleurs des agencements théâtraux. Mais c'est vrai que, bon, du fait de l'amplitude dans toute son œuvre, de l'amplitude des formes et des territoires formels que ce soit la poésie, que ce soit le cinéma, que ce soit le roman, la littérature, que ce soit l'essai journalistique, que ce soit les performances auxquelles il a participé, ses voyages. Bon, il y a quelque chose qui, effectivement, est de l'ordre très plastique, non ?
Quand vous racontez que c'est une conversation avec Stanislas Nordet,
oui,
qui fait naître, en tout cas, le désir de lire,
oui,
il dit quoi, Nordet, sur ce texte ? Il vous met la puce à l'oreille ?
Non, mais c'était parce que j'ai toujours avec Stan des conversations sur voilà des grands textes. Il s'avère que comme on a parfois les mêmes généalogies, comme on en parlait pendant le book club, c'est-à-dire comme on a des bibliothèques communes, notamment bon d'une certaine proximité avec certains la poésie et l'histoire politique au XXe et XIXe siècle marxiste. Bon, bah c'est en discutant souvent c'est comme des constellations, c'est comme des cosmogonies qui il y a certains auteurs, certaines autrices qui reviennent et donc. C'était au moment de l'esthétique de la résistance que je faisais, au moment où j'étais directeur du Théâtre national de Strasbourg. Et j'étais à ce moment-là dans les années 70 avec Peter Weiss, et on parlait de la différence de la littérature nord de l'Europe du Nord, allemande et nordique, puisque Peter Weiss était en Suède après la guerre, et on parlait du coup du bassin méditerranéen, des différences, vous voyez, entre un auteur comme Heiner Müller dans les années 70-80 et d'un auteur comme Pasolini. Donc c'est au fur et à mesure des conversations et ça vient. Pasolini, moi je l'avais découvert quand j'étais très enfin comme par les films quoi, et Pétrole, je l'avais jamais traversé vraiment quoi. Alors c'est venu comme ça. De proche en proche, de conversation en conversation.
On va écouter un extrait sonore de cette mise en scène de Pétrole qu'on pouvait voir donc au théâtre de l'Odéon et qui est en tournée. On est au début.
Un homme est allongé sur la piste. Je répète, un homme allongé sur la piste. À vous.
Bien reçu. Pouvez-vous vérifier l'identité de l'homme allongé au sol ? S'agit-il du pilote ?
Je n'ose pas rapprocher. Une valise est posée juste à côté de l'homme allongé. Mise en place d'un périmètre de sécurité demandé et renfort d'un service de déminage. À vous.
De quoi avez-vous peur, agent sol ? Nous sommes en Italie en 1962. Le seul boom que vous entendrez est économique. Vous pouvez vous approcher en toute sécurité. Nous avons besoin de connaître l'identité de l'homme allongé. S'agit-il du pilote ? Monsieur Carlo Valetti, né le 6 mars 1932.
D'après l'étiquette située sur la valise, il s'agit bien de Carlo Valetti, affirmatif. Je procède à l'ouverture de la valise. À vous.
Bien reçu, agent sol, j'attends vos nouvelles.
Oh mon Dieu ! Des livres. Partout.
Des livres, vous voulez dire de vrais livres ?
Je crains, tour de contrôle, qu'on se tienne là devant un attentat intellectuel. Je répète, tour de contrôle, un attentat intellectuel.
Permettez-vous et dites-moi le nom des auteurs que vous pouvez y lire.
Dostoïevski. Les posséder. Apparemment, tout Dostoïevski.
Oui, l'auteur est tombé dedans quand il était petit.
Dante. Dernier chant du purgatoire.
Normal pour un Italien.
Swift. Strindberg. Inferno. Stern. Tristram Shelby. Shlomsky. Stern et la théorie du roman.
Ou alors le spectateur aura déjà compris qu'il s'agit de la valise qui a aidé l'auteur pour composer son héros, Monsieur Carlo Valetti.
Schreber. Mémoire d'un hébropathe. Ça vous parle ?
Non. Lisez-moi la quatrième de couverture.
D'un homme qui a l'impression d'être une femme quand Dieu le pénètre. Mais c'est quoi ça ?
Un hébropathe.
Ferenczi. Thalassa.
Thalassa, c'est en rapport avec la mer.
Marquis de Sade. Ça vous parle ?
Sade, vous êtes sûr ?
Les 120 jours de Sodome.
Aïe, 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 ça va être chaud.
Et puis Freud. Partout, mais nulle part.
Comment vous savez alors ?
À mon insu, tour de contrôle. À mon insu.
Je vois qu'il y a les Argonautes d'Apollonius de Rhodes et Philippe Solers. C'est un beau bordel. Je sens qu'il va s'agir d'un roman en grouillement, et non pas un roman conventionnel, un roman plutôt en shish kebab.
Ah, vous voulez dire qu'à l'image de la broche à kebab, le roman va tourner sur lui-même ?
Non, vous n'avez pas compris l'image de l'auteur. Ce sont des couches superposées qui donnent un tout homogène, mais sans se mélanger. Bon, en bref, on va bouffer des notes.
Oh, tous ces livres tours de contrôle, on dirait la bibliothèque d'un intellectuel de gauche. C'est communiste, c'est rouge. Mais, en vrai, qu'est-ce qu'un roman ?
Tour de contrôle à un jour au sol. Attention, dépression venant du nord, on ne sait plus s'il s'agit de l'enfer, du paradis ou du purgatoire. Tout est sans dessus dessous. Veuillez quitter la piste immédiatement, s'il vous plaît.
Dans vos outils, Sylvain Creusevaux, il y a l'humour pour traverser Pétrole. Et on voit bien, je parlais de propositions généreuses et je voudrais vraiment revenir là-dessus, c'est que c'est une forme d'accueil de faire cette scène-là, de le faire de cette manière-là, de le faire avec ce ton-là. C'est une manière de nous permettre d'entrer dans cette œuvre qui est difficile, où on s'est dit « Ok, on va se remonter les manches », mais le faire comme ça, c'est quand même un... Moi, je trouve que c'est un geste de bienvenue.
Oui, c'est l'est, mais Pasolini, au début de Pétrole, il y a donc cette feuille de bibliographie avec tous ces auteurs-là. Il fait la même chose dans Pétrole que ce qu'il fait dans Salo, puisque c'est à la même période, où le film commence par une bibliographie d'auteurs français. qu'il a utilisé pour construire son scénario. Et donc, c'est de la littérature. Dans Salo, c'est un panneau de littérature. Il faut passer à travers la littérature pour regarder le film. Il faut passer à travers un seuil littéraire pour entrer dans Pétrole. Seuil littéraire avec plusieurs, avec des noms, et qui sont les noms qu'il va passer son temps à transformer tout au long du texte. C'est donc aussi une histoire de la littérature, Pétrole. Et il y a quelque chose que j'aime bien là-dedans, c'est-à-dire Pasolini, à partir de 65-66, il a eu une première période comme ça dans le début. C'est un auteur qui est né en 22. À partir de la fin de la guerre, son œuvre se développe. Sous l'égide un peu de Gramsci, du national populaire, c'est-à-dire quand il fait ses films, il veut que ses films puissent être vus par les paysans, les ouvriers. Il y a toute cette question-là, évidemment, de cette généalogie marxiste dans une société de classe. Et puis, il a une sorte de crise. Enfin, pas une crise, mais disons qu'à partir de 65-66, il se rend compte que la société de masse a remplacé la société de classe qu'on peut plus écrire de la même manière. Bon. Et alors, il le dit, il s'en amuse, il va commencer à faire des œuvres non pas il va utiliser le mot hermétisme parfois, se rendre plus difficile, plus coriace.
Sciemment.
Oui, sciemment un peu. Essayer de rentrer en combat avec la société marchande qui veut que les choses soient comestibles, consommables, digérables, sans problème, non ?
C'est la forme qui résiste.
Il va résister par la forme, il va résister aussi parce que il y a toujours dans des moments, et moi j'aime bien ça, c'est-à-dire... alors vous voyez, nous par exemple, on fait du théâtre dans le théâtre subventionné français, on a une bonne conscience, on veut être bien et tout ça, on veut faire du théâtre...
Vous avez une bonne conscience, parlez pour vous,
oui,
c'est pas trop
souvent. Je veux faire du théâtre pour le plus grand nombre, tout le monde nous rabâche les oreilles avec le théâtre populaire depuis toujours, qu'est-ce que ça veut dire, élargir l'accès aux œuvres et tout ça et tout ça. Et il y a des moments où on veut jouir d'être impopulaire. Où on veut construire des... C'est des moments, je crois. Et lui, il le fait. Moi, je peux ressentir ça parfois aussi. C'est-à-dire, je vais faire du théâtre impopulaire. Je veux dire par là, c'est comme un sourire que je dis ça. C'est-à-dire, rendre l'accès... Enfin, ne pas, céder à cette injonction de « il faut que tout le monde comprenne, il faut que tout le monde soit... je sais pas comment dire, il faut que ça soit facile, il faut pas que ça soit trop difficile, et puis il faut que ça pose pas de problème. » C'est comme si les gens devaient venir au théâtre avec leur corps, s'asseoir, et qu'il ne, en fait, se passe rien. Et en fait, au bout de la logique de « tu sais, c'est difficile, hein, puis il y a le travail, et puis alors, tu sais, et tout le monde est déculturé, et tous ces trucs-là, des biens consommables et tout ça, et puis à un moment donné, tu dis « merde ». Tu dis... Les gens vont s'asseoir dans la salle et il faudrait qu'il se passe quelque chose. Alors il peut se passer quelque chose parce que c'est un peu impopulaire ou un peu difficile et tout ça. Et c'est ce que j'ai la sensation, tu sais, ça fait suer quoi. Tu mets la bibliographie d'une autre manière et alors comme un peu quand au début du Capital Arthur faisait un grand monologue et je voyais des malaises vagos dans la salle parce que les gens disent merde putain.
Mais vous le faites pas pour ça.
Non mais là c'est pour vous répondre première partie de la réponse, c'est-à-dire oui, on va.
Oui,
on va
vous pas... accueillez, mais pas trop, quoi.
Ou plutôt, non, c'est pas accueillant. Ou
moi,
le
je
seuil.
Ça hyper accueillant.
Mais nous, on va quand même faire un peu d'humour parce que on va dire difficile, sympa.
Mais venez
difficile,
avec nous.
Pas facile, facile, pas facile, non. Sérieux, pas sérieux. Donc, moi, je veux bien. On va le faire. On va résister un petit peu à cette eau tiède de. Il faut que ça soit facile, mais en même temps. On va essayer de mettre aussi un peu d'humour parce que on est là, on est ensemble et que tout ça n'est pas très sérieux.
Et peut-être aussi parce qu'il en a.
Il a beaucoup d'humour, lui.
Peut-être aussi parce que la question de l'humour qui n'est souvent rien d'autre que la capacité d'avoir une distance plus ou moins grande avec le réel, avec la mort, avec les mots et le langage.
C'est lui qui dit que son roman, c'est un roman chiche kebab, grouillement.
Génial. Après,
oui, c'est très drôle. Alors nous, on fait des blagues aussi parce qu'effectivement, j'ai toujours la sensation que quand on vient nous voir, et puis il y a des personnes qui viennent nous voir régulièrement à chaque fois qu'on fait une proposition, j'aime bien l'idée quand même qu'il y ait un pont, un pacte, non ? Quelques signes qui disent à des gens les gens qui nous découvrent, c'est super, des gens qui reviennent et qui disent, ouais, ça, je reconnais, ils font les blagues comme d'habitude, ok, c'est ça. Et donc, c'est un clin d'œil pour dire, mais en même temps, j'adapte le fait qu'on commence par une bibliographie et avec des noms qui parfois disent, voilà, et tout le monde se dit, voilà, c'est parti, c'est un intello qui,
Et en même temps, c'est très drôle, puisque dès le début aussi, la tour de contrôle s'inquiète d'un intello de gauche qui a une valise remplie de livres et que, oh là là, ça va piquer, oh là là, ça va être sérieux, oh là là, ça va être compliqué. Dans un monde où, outre-Atlantique en tout cas, certains livres sont interdits, où la question de l'intellectuel, l'intellectualisme, la pensée, là, il n'y a pas besoin de traverser l'Atlantique, est mise à mal, critiquée, moquée. C'est une ironie qui permettait à Pasolini de penser sa propre place dans le début des années 70 et qui n'est pas inutile à rejouer pour d'autres raisons sur un plateau en 2025-2026.
Ah bah, complètement. Et puis il met son corps sur le plateau, sur la table, dans la vie civile, en poète. Et oui. Et oui, on brûle des livres dans les années 30. Et oui, on retire des livres dans les bibliothèques américaines. Et oui, il y a des SA dans les rues qui commencent à machin. Et oui, il y a l'ICE, la police anti-immigration, qui, dès que t'as pas la peau blanche, t'attaque en ce moment aux États-Unis. C'est, je veux dire, ça fait longtemps qu'il faut plus parler devant nous, hein. C'est là. Mais, comme disait Brecht, une pièce avec laquelle on ne peut pas rire est une pièce dont on doit rire. C'est-à-dire qu'il faut. J'ai la sensation que quand tout d'un coup au théâtre tu proposes à des gens de venir et tout ça, oui, il y a quand même un signe à avoir qui peut proposer l'engagement, qui peut proposer une somme, enfin un effort. Mais vous le disiez quand vous disiez tout à l'heure, on sent qu'on va devoir se retrousser les manches.
Ou pas, c'est même pas comme ça totalement que l'ai vécu moi.
Mais en tout cas.
En tout cas, je pense qu'il y a des gens qui se sont retroussés les manches et qui m'ont invité à une expérience. En sortant, tu m'aurais dit « Alors Marie, ça parle de quoi pétrole ?» J'aurais pu dire des choses, mais j'aurais pas pu raconter une histoire. Ouais. Mais chose que fait peut-être pas pétrole. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait des gens qui avaient pensé avant moi et qui me proposaient presque de faire autre chose que penser. Je sais pas comment dire.
Ouais. Bah, je sais, oui, je peux pas parler pour vous, mais en tout cas, c'est clair que il faut pas céder. Enfin, moi, j'essaie de construire avec l'équipe un humour qui est aussi une manière de dire allez.
Dans la matière que brasse Pétrole, il y a des contenus ouvertement politiques. Lesquels, Sylvain Creusot?
Ce qui est ouvertement politique.
Enfin, il n'y a que ça, en fait. Que
oui, politique dans Pétrole et qui est un leitmotiv constant de son œuvre, quelles que soient les formes qu'elle a prises à partir de 65. Enfin, je dis 65 comme ça pour dire après l'évangile selon saint Matthieu. C'est ce qu'il appelle le génocide culturel, c'est-à-dire comment la forme de production capitaliste de son temps a intégré les formes de vie, les formes de culture prolétaires, sous-prolétaires, paysannes, à l'intérieur de la société de consommation et la société de masse. Pour lui, il appelle ça génocide culturel, c'est-à-dire qu'il y a des formes de vie, des corps, des sourires, des regards qui s'uniformisent à l'image de comment la bourgeoisie est en train de construire son monde.
Et par conséquent, d'autres formes qui disparaissent.
Et donc qui écrasent, enfin non pas qui... Oui, qui se... disparaissent en tant qu'elles se métamorphosent dans la grande classe moyenne généralisée et mondialisée. Et là où, à l'époque, ça frite beaucoup avec ses amis de gauche, notamment, et beaucoup de gens, c'est que il critique, et c'est ça dans toute son œuvre, il critique, il combat, enfin, il attaque des concepts ou des comment dire des mots clés des éléments de langage ou des dispositifs qui sont progressistes pour les gens. La tolérance, il ne supporte pas la tolérance bourgeoise, l'hédonisme marchand sexuel, il ne le supporte pas, il abjurera la trilogie de la vie, ses films, parce que précisément il voulait faire des films, notamment le Décaméron et les contes de Canterbury et les Mille et Une Nuits, sur les organes sexuels, sur le désir violent et innocent, et ça sera récupéré ou ça coulera dans l'espèce de libération sexuelle, comme il disait à l'époque. Ça le dégoûtera, il abjurera ça. C'est d'ailleurs après cette expérience-là qu'il va se mettre à Pétrole et à Salo, c'est-à-dire à tout d'un coup frapper bêtement et frontalement sur le lien qu'il y a pour lui entre le lien, ou plutôt la continuation historique sous d'autres formes, entre le fascisme de type clérical mussolinien, clérical fasciste, et la société de consommation qu'il appelle le nouveau fascisme, en fait. Alors ça, dans Pétrole, évidemment, ça passe par les sommets de l'idéologie de l'État italien à ce moment-là, la corruption, et comment le pétrole, comme cristallisation et agrégat allégorique, si vous voulez, et matériel, de cette manière de violer la terre, de posséder, d'exploiter et de transformer tout le monde et toutes les régions du monde et toutes les cultures du monde en ce monde un et uniforme qui est devenu notre monde.
Et presque en réponse ou presque en revers de ce rapport au monde, il y a un autre d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé de la structure un peu schizoïde ou en tout cas divisée de son personnage principal, il y aurait comme une réponse à ce viol, à cette exploitation à l'infini de la terre, des ressources et des corps, une sexualité hétérogène, la découverte de la pénétration par un homme, l'amour homosexuel et la place d'un désir effréné, que ce soit dans le coït ou dans la masturbation, ou dans le désir absolu, au sens fantasmagorique du terme, qui l'opposerait comme une autre une force de vie, quoi.
Je ne sais pas s'il l'oppose, mais c'est clair que Pétrole, il dit dans l'extrait que vous avez passé, c'est tout ce que je sais, c'est une somme, c'est le vœu de ma vie. Mais Pétrole, c'est Pasolini, pas Pasolini. C'est-à-dire, Pasolini est conscient qu'il vient de la classe bourgeoise, il est conscient qu'il, généalogiquement, il fait partie de la classe des exploiteurs, que même physiquement aller dans un pays étranger, comme quand il est allé en Inde ou en Afrique ou au Moyen-Orient, il y vient avec ce qu'il y traîne, c'est-à-dire le monde occidental qu'il représente, qu'il incarne. Et donc, en ce sens-là, il y a une partie de son héros, Carlo Valetti, comme une partie de lui-même, auteur Pasolini, qui est un possédant. Qui possède, qui prend, exactement comme aujourd'hui on voit les nouveaux impérialistes qui reprennent, qui prennent de nouveau, qu'ils ont besoin de prendre, ils accaparent. Et alors il y a ce côté-là. Mais en même temps, son héros et lui-même a une différence. Ce qu'il appelle une différence, et c'est pareil dans son théâtre, dans d'autres pièces de théâtre, c'est que effectivement là il y a un désir qui va naître pour des hommes. Et c'est une différence pour lui, comme dans sa pièce Pilade, il va dire que le nègre est une différence, le juif est une différence, le tzigane est une différence. Évidemment, il reprend aussi des noms de culture, de société ou de minorité qui ont été évidemment
chassés par le fascisme,
chassés, écrasés, exterminés, etc. Et là, sa différence à lui, elle est homosexuelle, c'est-à-dire au sens le désir d'être pénétré, d'être exploité. Il y a évidemment là-dedans toute cette relation sadomasochiste qui est de la sexualité vécue par Pasolini et transcrite dans ses personnages. Donc quand vous dites, et donc effectivement, il y a un deuxième personnage qui est le double du premier ou le nocturne de l'urne, qui effectivement ne s'intéresse pas du tout au pouvoir, ne veut pas grimper dans la société italienne comme son numéro un, qui est le numéro deux, qui est le second, qui est le serviteur.
Mais c'est pas son antagoniste.
On pourrait le penser si on était encore un peu dans l'esprit libertaire d'un certain moment, ou romantisme libertaire, quoique violent et même criminel, et peut-être pour cela criminel, s'opposant à une classe bourgeoise, à un ordre dominant. Mais moi, au fur et à mesure que je continue à fréquenter, à arpenter Pétrole, je suis pas sûr qu'il considère tout à fait son numéro 2 comme l'inverse de son numéro 1. Ces deux formes que prennent l'identité de son héros, qui n'est jamais complètement complétée ni unifiée, ça voyage, ça se métamorphose, l'identité est jamais trouble, c'est en cela que c'est un roman profondément antifasciste.
L'identité est toujours trouble.
C'est-à-dire, c'est précisément ce que le fascisme ne peut pas supporter, qu'une identité soit trouble, que les contours soient pas clairs, etc. Et en cela, c'est complètement queer, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est complètement voyageant, mobile, c'est complètement... À ce moment-là, ça serait beau, d'ailleurs, d'essayer de faire une lecture queer, parce que ça poserait une infinité source de problèmes, par ailleurs. Mais en cela, Carlo II, ce Carlo II, ce Carlo qui, effectivement, n'est consacré que à sa vie sexuelle, et qui semble être un désordonnateur, un diable en fait. Je suis pas sûr qu'il le pense comme un double contrarié, parce que il sait aussi que cette psyché différente est le fruit en fait d'un mode de production sociale. D'ailleurs, à la fin, vous savez, il redevient un, et c'est comme si le pouvoir avait gagné sur la possibilité de point de fuite qu'était ce deuxième personnage.
Note 55. S'ils n'aiment fort que pour l'argent, on ne les aime que pour l'heure. C'est plus ou moins à quoi pensait Carlo pendant qu'il était penché pour contenter le garçon. Mais peut-être pensait-il avec une volupté qui n'éliminait pas l'autre volupté, qu'il éprouvait intensément dans cet acte, en essayant de ne pas s'en distraire, n'était-ce pas vrai? Peut-être les aimait-on à jamais. Une heure est un trou, où s'amasse avec un temps qui n'a pas de succession. Il n'aimait pas Pietro seulement pour ce gigantesque monceau de chair qu'il avait dans la bouche, lisse et dure, avec ses formes presque créées par un moule, bien qu'elles fussent si passionnément elles-mêmes, nouvelles, jamais vues, avec leur chaleur, leur odeur, ce je ne sais quoi de livide, presque abject, c'est-à-dire de pas innocemment animal, qui transparaissait. Il aimait ce garçon aussi pour ce qu'il ne lui donnait pas et ne pouvait pas lui donner. Par exemple, sa manière de ne pas se faire jouir complètement, sans d'autres pensées qui cherchaient les raisons de la jouissance. Sa manière de n'être là que pour le temps purement nécessaire à obtenir ce plaisir qui, au garçon, semble si important et auquel ils ne peuvent résister.
France Culture. Le Book Club, Marie Richeux.
Bonjour le Book Club. Alors, ce qui m'a frappé dans la mise en scène de Sylvain Creusevaux, c'est d'abord la flopée de journaux titrant pétrole dans la salle, mais aussi l'usage qui a été fait de la sexualité, si j'ose dire. Alors, je voulais savoir comment Sylvain Creusevaux avait sélectionné les extraits, les notes du roman relatives à la sexualité, et aussi s'il s'était inspiré de la filmographie de Pasolini, de près ou de loin, d'enquêtes sur la sexualité, par exemple, ou de certaines scènes de ses films, parce que je n'ai jamais vu de telles scènes de sexe au théâtre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, Adrien. Juste avant, on entendait un petit bout de la note 55, donc je rappelle que ce roman Pétrole que vous avez mis en scène, Sylvain Creusevaux, est composé de plusieurs notes. Adrien vous demande comment vous avez choisi les notes spécifiquement, dit-il, consacrées à la vie sexuelle. Donc, on entendit un petit morceau là.
Ben, la note 55 là, dont on vient d'entendre un extrait en lecture, c'est une note, j'allais dire c'est une note connue, célèbre, pour autant que on puisse parler
tout de relativement, voilà.
Oui, tout relativement, parce que c'est une très longue note de, je pense, 20-25 pages, dans laquelle notre Carlo numéro 2 découvre la sexualité dans un terrain vague avec une vingtaine de garçons. Et c'est une très longue note où, garçon après garçon, il y a une relation sexuelle tarifée, payée. Elle a sa sortie en... Le livre est sorti en 92. Hein, il a mis plus de 15 ans à sortir en Italie et en 95 en France, il me semble, la première édition.
Scandale.
Je ne sais pas si c'est un scandale, mais enfin, en tout cas, bon, on en a beaucoup parlé, quoi. Et puis, c'est scabreux, c'est pas scabreux, c'est une grande scène de littérature sexuelle. Puis, troublante, je pense, parce que les gens savent qu'il y avait de la sexualité de Pasolini là-dedans, oui, aussi. Et puis, il a été assassiné sur un terrain vague, oui, à Ostie, où il était allé avec un jeune homme. Donc, tout ça fait que c'était particulièrement explosif. Et... quand on a une scène, enfin quand on a une note comme ça dans un roman, il faut la traiter. Enfin, c'est difficile dans le choix parce que bon, il y a 200 notes. Alors nous, forcément, il y avait au fur et à mesure des répétitions, on disait bon, il y a
ça,
beaucoup,
on fait pas,
on va
ça
pas
on
le
fait.
Faire. Voilà, celle-là, il fallait absolument qu'on en donne une vision, quoi. Et vous savez, moi, elle me frappe cette note par sa littérature.
Mais oui, bien sûr. Mais évidemment, il y a les odeurs de fenouil, il y a l'herbe séchée, il y a la lune, il y a la lumière, il y a la succession des jeunes gens. Enfin, c'est sublime.
Oui.
Le sexe moulé à l'instant et qui fait quand même, enfin, qu'on retrouve sur votre plateau avec des tonnes de sexe en, je sais pas quoi, en silicone.
Oui, des godes, quoi.
Enfin, ouais.
Bah, écoutez, non, mais c'est parce que, je dis ça parce que, évidemment, avec l'équipe, on s'est posé la question de savoir si on allait faire en situation. Mm. Est-ce qu'on allait transformer cette scène de littérature sexuelle,
en théâtre, quoi.
En théâtre, en situation. Et moi, j'ai toujours senti à la lecture que c'était une scène de littérature et qu'il fallait faire entendre la littérature. Il fallait faire entendre le rapport qu'il y avait dans la cosmogonie de Pasolini entre la lune et qu'est-ce qu'a à voir la lune et sa lumière avec le fait de désirer être possédé, et faire sentir le caractère sacré. Car au fur et à mesure, cet homme qui a le désir d'être possédé et qui vit l'immense plaisir en tant que soumis et en tant que prenant plaisir à être soumis et même violemment soumis, d'avoir un rapport avec le tout dans le fait d'être pénétré. Et il y a une note qui va...
Il dit même, je vous demande, lecteur, de ne pas sourire à l'évocation du cosmos.
Oui, oui. Ah oui, non mais... Alors, ce qui est très sérieux et drôle en même temps. Et... j'avais aussi cette petite alerte dans ma tête, c'est que j'avais vu le film de qui s'appelle Pasolini, qui est sur le dernier jour de Pasolini de Abel Ferrara, qui est consacré à la dernière journée de Pasolini, et où il insère quelques fragments de pétrole, des scènes de pétrole. Et notamment quelques secondes, ou peut-être une ou deux minutes ou trois minutes, une proposition que fait Abel Ferrara en situation dans le terrain vague. Et donc ça fait une scène de cul. Et je trouvais ça pas très bien.
J'ai complètement oublié.
Parce que, précisément, oui, c'en est une en littérature, mais c'est quelque chose d'autre chose que simplement une scène de sexe ou une scène de pornographie. Ça peut être amusant, ça peut être drôle, ça peut nous faire saliver. Mais enfin, il est quand même question au fur et à mesure de quelqu'un qui est en rapport avec, avec le tout, quoi.
Pour répondre plus précisément à Adrien, qui, j'avais l'impression, nous disait « C'est la première fois que sur une pièce de théâtre, je vois autant de sexe, parler autant de sexe, montrer autant de sexe. » Est-ce que ça, c'est révélateur de ce qu'il y a dans Pétrole, de la manière dont vous l'avez lu, de la résistance ou de la, ce que vous défendiez tout à l'heure, Sylvain Creusevaux, de la résistance par la forme, du scandale théâtral qui veut résister au tout facile à gober?
Oui, oui, il y a énormément... Pour le dire comme ça.
Il y a un côté provocateur, quoi. Je veux dire. Non, mais au final.
Je sais pas.
Bah, au final, quand on est au théâtre de l'Odéon et que.
Ah,
pour le dire
pour
de
nous
manière... Oui.
Ah non, non, pour nous, pas du tout. Non, je croyais que vous parliez
zéro
de Pasolini.
Zéro provocateur.
Ah non, zéro, zéro.
Okay.
À aucun moment, Et jamais, je crois, et je me suis jamais. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout une zone du théâtre qui m'intéresse, être provocateur ou faire de la provocation. Non, le livre est rempli de la question sexuelle. Sous différentes formes. Là, on prenait la note 55 où Carlo II est avec une vingtaine de garçons, mais plus tard, 200 pages plus loin, puisque Carlo II, comme un inconscient vit toujours les choses avant le Carlo I, et donc on a après une grande scène de sexe entre Carlo I et Carmelo, et cette fois c'est un homme, et qui est une scène de sexe qui est aussi sur un terrain vague, et qui est aussi une scène de sexe crue, et en même temps une scène d'amour. Et là, pour le coup, on l'a pas fait en littérature, on l'a filmé, mais oui, il y a la fellation, le faux sexe, et comme une sorte de relation, une sorte de scène de sexe, oui. Mais non, pas de provocation, c'est simplement que, non, même plutôt, moi je le fais plutôt avec... Je sais pas, je me dis c'est rigolo un petit peu.
Bah oui. Mais... Ouais, c'est ça. Alors pardon, je me suis trompée. Alors oui, c'est un peu rigolo.
Il y a des gens qui trouvent pas ça rigolo. Mais vous savez, la scène 55, même en lecture, il y a des gens qui veulent pas la lire. Plein de personnes que j'ai rencontrées, ou même au début dans l'équipe, c'est pas qu'ils veulent pas la lire, mais à quoi bon, pourquoi? Comme si justement l'écran de merde, parce que c'est toujours d'abord de la merde qu'on a dans les yeux quand on commence à lire un truc avant que. Alors oui, c'est une scène pornographique et puis c'est toujours les mêmes. Eh bien, j'ai dit non. Les sexes sont jamais les mêmes, c'est jamais décrit pareil. Tu sais, comme si on avait d'abord les premières images, oui, parce que la pornographie, les images de la pornographie ou du cul, une scène de cul. Alors se dressent peut-être de manière un peu défensive des écrans un peu, et c'est simplement en faisant tomber ces écrans, en reprenant les lectures, qu'on s'aperçoit de la beauté de la scène littéraire. Et donc j'ai mis du temps aussi à enfin, c'est pas que j'ai mis du temps, mais disons, avec l'équipe, on discutait comment on peut le faire. Mais je sentais parfois dans certains regards, sur certaines tentatives, mais non, mais il ira pas, on va pas le mettre à la fin, ça sera pas comme ça et tout ça. Mais jamais dans un état de provocation. Et aussi, bon, bah, parce qu'il faut que les acteurs, ils soient en confiance quand même, ça prend du temps, et d'accord, soient en confiance, s'amusent de ça et tout ça. Après, dans le livre, ce qui est le plus drôle et le plus dérangeant pour la plupart des personnes, c'est plutôt au début du livre, c'est à la naissance de Carlo II, une fois qu'il est là, c'est son retour chez lui, c'est l'inceste violent, enfin c'est le viol incestueux avec la mère, c'est l'Édipe incestueux, il couche avec toutes ses sœurs, il y a une espèce de fantasmagorie oedipienne et sexuelle criminelle, où là j'ai senti quand même qu'il y avait des personnes, enfin il y a et toujours, qui sont choquées, enfin qui sont mal à l'aise avec ça.
Le book club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Comme chaque semaine en ce jour et à cette heure, il est temps de parler de littérature jeunesse avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Et aujourd'hui, vous nous parlez du plaisir de jouer, sans transition ou presque.
Non, sans transition. En ces longues journées d'hiver, si vous avez quelque enfant dans votre entourage ou s'il vous arrive d'en croiser sur votre chemin, peut-être vous êtes-vous retrouvé à vous occuper, à les occuper en jouant avec jeux de cartes, de plateaux, de mimes, de rôles, que sais-je. Activité gratuite qui n'a d'autre but qu'elle-même. Elle fait appel à l'imaginaire et se termine parfois bien, parfois mal. Le jeu, en somme, a bien des choses en commun avec la lecture, si l'on y songe, surtout lorsque cette dernière est partagée. Ce n'est sans doute pas un hasard s'il arrive à certains univers livresque de devenir des jeux, plusieurs éditeurs convertissant certains de leurs albums phares en puzzle, loto et autres batailles navales. Le hasard a mis sur ma route ces dernières semaines deux jeux conçus par un auteur et une autrice de livres pour enfants et qui valent le coup d'être découverts.
Et quels sont-ils ? Qui sont-ils ?
Le premier prend la forme d'un jeu que pourtant habituellement je n'aime pas beaucoup. Un jeu qui célèbre une institution bourgeoise, s'il en est, qui plus est dans sa forme la plus normée. Un jeu à tendance réactionnaire. En somme, je veux parler du jeu de cette famille. La saveur de celui-ci tient toutefois au fait qu'il procède par une série de décalages qui font aussi le sel des albums imaginés par leur créateur, j'ai nommé Claude Ponty. Pour commencer, il s'agit d'un jeu de 6 familles et non 7. La famille dort en sieste, composée d'ours, la famille Festine, des taupes, les Frampton, des souris, les rapides, des lapins, les toujourelles, des fourmis et la famille Twims, enfin des Twims, créature à mi-chemin entre l'écureuil et le nounours que l'auteur a imaginé pour son album Ma Vallée, paru en 1998. Deuxième pas de côté, les personnages de chacune de ces 6 familles ne sont pas nécessairement le papa, la maman, le fiston, etc. Les différentes cartes de la famille toujours elle correspondent par exemple chacune à une action, non à une personne, se promener, manger, rêver, etc. Chez les rapides, on trouve une tante et un oncle, chez les festines, 2 demi-frères et 2 papas. Bien malin, celui qui dans la famille Frampton sera dire au premier coup d'œil si Appenzell, Mascarpoline ou Chaourcine sont grand-mère ou cousine. On l'apprendra, toutefois, en lisant le livret accordéon auquel chaque famille est associée et qui nous présente chacun des membres tout en exposant une véritable histoire. Lorsqu'on parvient à reconstituer une famille, si l'on place les cartes les unes à côté des autres, on obtient un grand dessin qui la compte, cette histoire, et dans l'observation duquel il fera bon se perdre. Il ne s'agit plus tant de reconstituer la famille que de retrouver l'histoire qui unit ses membres. C'est beaucoup plus intéressant.
Il est malin, Claude Ponty. Vous parliez d'un deuxième jeu, Mathilde.
Oui, un jeu de cartes, lui aussi, auquel on songe peut-être un peu moins souvent lorsqu'on pense à des enfants. Il est pourtant formidable à pratiquer avec eux, puisqu'il s'agit d'un tarot divinatoire.
Ah oui.
Il s'appelle l'Oracle de Tulipe et il est signé Sophie Guérive. J'ai déjà eu l'occasion ici de vous parler de l'univers rhizomatique de cette autrice, née autour d'un ours philosophe prénommé Tulipe, héros avec quelques camarades d'une série d'albums pour adultes, scénettes en forme de méditation sur l'absurdité de l'existence. Série prolongée par plusieurs autres mettant en scène les mêmes personnages et à destination des enfants. Il y a 2 ans, Sophie Guérive a fait paraître le message suivant sur les réseaux sociaux. Perdu, désemparé, perplexe face à la vie, écrit à Rose et Violette pour un conseil gratuit. Violette est l'un des personnages de la bande, c'est une oiselle bleue. Rose est sa grand-mère, diseuse de bonne aventure de son état. Suite à ce message, l'autrice a reçu une avalanche de missives auxquelles elle s'est employée à répondre avec sérieux et drôlerie. L'ensemble a paru à l'automne sous forme d'une bande dessinée intitulée « Le bureau des cœurs ». Rose fait parfois appel à un tarot divinatoire pour éclairer ceux et celles venus lui demander conseil. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de publier en parallèle du livre ce fameux tarot. Soit un coffret de 63 cartes avec un livret éclairant le sens de chacune. Dans ce paquet, nous explique le personnage, vous trouverez de quoi répondre à toutes les questions. Amour, argent, karma, menu du soir, ouverture cosmique. Comment tirer les cartes ? Pas de méthode officielle. On peut tirer une carte chaque matin ou, pour répondre à un problème précis, en tirer 3, 5, autant que nécessaire pour que ça vous parle. Fin de citation. J'ai tout récemment suggéré à une jeune personne de mon entourage de tirer une carte après avoir posé une question. L'interrogation porta sur la gravité d'avoir raté plusieurs jours d'école du fait d'une maladie. La jeune personne tira le dormeur en guise de réponse. Je vous en lis la description. Le dormeur. Voilà quelqu'un qui n'en rame pas une et qui pourtant voyage à longueur de temps dans des contrées inaccessibles. Inutile ? À voir. Le monde est peut-être tout entier le rêve d'un insecte endormi. Comme le dit Rose dans le livret, les cartes servent à faire parler. C'est d'autant plus vrai peut-être avec des enfants, à qui rien ne sert, comme chacun sait, de demander comment s'est passée leur journée si l'on espère obtenir quelques récits. Jouer avec eux est une meilleure méthode, par exemple avec ces deux jeux-là.
C'est vous qui êtes trop forte, Mathilde. On rappelle les références ?
Le jeu de 6 familles de Claude Ponty, édité par l'École des loisirs, et l'Oracle de Tulipe aux éditions 2042.
Votre chronique Lecture Jeunesse est à retrouver sur le site franceculture.fr ou via l'application Radio France. On se quitte exceptionnellement, pas avec une page musicale, mais avec un poème. C'est la voix de Pier Paolo Pasolini, « Je suis une force du passé ».
Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese.
Je suis une force du passé. Tout mon amour va à la tradition. Je viens des ruines, des églises, des retables d'hôtels, des villages oubliés, des Apennins et des pré-Alpes où mes frères ont vécu. J'erre sur la Tuscalona comme un fou, sur l'Appia comme un chien sans maître, où je regarde les crépuscules, les matins sur Rome, sur la Ciociaria, sur le monde, comme les premiers actes de la proto-histoire, de la post-histoire, auxquels j'assiste par privilège d'état civil, du bord extrême de quelque époque ensevelie. Il est monstrueux celui qui est né des entrailles d'une femme morte. Et moi je rôde, fœtus adulte, plus moderne que n'importe quel moderne, pour chercher des frères qui ne sont plus.
Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta. E io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più.
Merci beaucoup.
Vous êtes venu parler de pétrole et puis en ce moment il y a le pavillon auteur Pasolini au Théâtre de la Commune. J'ai fait toutes les annonces en début d'émission mais on mettra tout sur le site franceculture.fr et pétrole qui est en tournée. Ce que j'ai pas dit au début c'est qu'il y a un livre qui s'appelle Sérieux pas sérieux, conversation avec Olivier Neveu et avec vous donc aux éditions théâtrales. Au son c'était Alexandre Dang, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, donc Garance Roubieux spécialement aujourd'hui.